La CNASIM, Chambre nationale des agents commerciaux en immobilier, vous parle sur Radio Immo.
Bienvenue dans cette émission, la CNASIM vous parle, toujours des sujets extrêmement pratiques qui vous aident à faire votre métier. Jean-Yves Frappin, bonjour.
Bonjour Fabien.
On est avec le secrétaire général de la CNASIM et on connaît tous ces clauses de non-concurrence qu'on signe dans ces contrats. Et puis un jour on se demande, voilà, est-ce qu'on a bien fait de les signer parce qu'elles ont des conséquences. Donc il est important de comprendre leur portée. Vous pouvez nous parler de ces contrats d'agents commerciaux, Jean-Yves Frappin, ils se caractérisent comment ces contrats?
Les contrats d'agent commercial, ils sont définis par les articles 134.1 à 134.17 du Code du commerce. Et donc on ne peut pas y déroger puisque c'est une directive européenne de décembre 86 qui a été inclue dans la loi du 29 juin 1991 qui elle-même est inclue dans le Code du commerce maintenant. Donc le statut de l'agent commercial est régi par les articles 134.1 à 134.17 du Code du commerce. Alors vous avez certains articles sur lesquels qui sont d'ordre public, sur lesquels on ne peut pas y revenir parce que même si c'est écrit, eh bien, c'est non écrit. Là, ça peut pas. Ouais. Et puis, vous avez certains articles qui peuvent être aménagés, notamment justement de les clauses non concurrence.
Alors, pendant la durée du contrat, voilà, des clauses de concurrence. C'est pendant, après, on ne parle pas de la même chose. Si on se concentre sur pendant la durée du contrat, qu'est-ce que vous avez envie de transmettre à vos adhérents et au-delà?
Alors, déjà, pendant la durée du contrat, il faut dire que le contrat d'agent commercial est un contrat d'intérêt commun. Et l'intérêt commun dit que l'agent commercial, dans l'article 134.3 du code du commerce, dit qu'il ne peut pas faire concurrence à son propre mandant, sauf accord de celui-ci. C'est-à-dire que si le mandant, agent immobilier, accepte que son agent commercial puisse travailler pour une autre agence immobilière. Bon, ce qui m'étonnerait beaucoup, mais ça peut arriver. Eh bien, il faut que l'agent commercial puisse avoir un courrier comme quoi les deux mandants, c'est-à-dire les deux agences immobilières, leur a mis par écrit comme quoi ils reconnaissaient que monsieur Attel, agent commercial...
La clause doit être signée des deux côtés, quoi.
Exact, des trois côtés.
Des trois côtés.
Avec l'agent commercial. Voilà. Donc ça, c'est une chose... Par contre, il s'avère que l'agent immobilier ne s'intéresse qu'à des biens d'habitation, par exemple, et que l'agent commercial voudrait travailler aussi sur les fonds de commerce ou les biens professionnels. Donc là, à ce moment-là, c'est une question de produit, mais c'est pareil, il doit avoir l'accord des demandants qui reconnaissent qu'il travaille pour le... Car autrement, c'est une faute grave et qui peut priver... comment dirais-je, le paiement des commissions et tout l'indemnité de cessation de contrat, etc. Bon, je ne voudrais pas citer des exemples, mais je connais un agent commercial qui ça lui a coûté, c'était des francs à l'époque, 10 millions de francs, hein, c'est-à-dire
ça peut coûter cher.
1 500 000 euros, mais c'était pas dans le domaine de l'immobilier. Mais cette clause-là doit être respectée. Il faut donc, pour pouvoir travailler avec une autre agence immobilière, il faut avoir l'accord des deux parties, des deux mandants. Qui reconnaissent qu'ils travaillent pour quelqu'un d'autre.
Alors, voilà. Il arrive que je découvre que mon contrat ne contient pas de clause de non-concurrence. Alors je me dis, oh, super, est-ce qu'on en est vraiment dispensé?
Non, puisque c'est dans la loi.
Donc tout. Même si c'est tacite, expliquez-nous.
Eh bien, même si c'est tacite, tout va bien. Pendant un certain temps, le mandant va rien dire du tout. Et puis, à un certain moment, eh ben, il va dire, dis donc, là, t'es bien gentil, mais je me suis aperçu, en fin de compte, que tu travaillais pour un concurrent. Et là, il n'y a pas de preuve, il n'y a pas d'écrit, il n'y a rien du tout. Donc, rupture de contrat, pour faute grave, pour avoir fait concurrence à son mandant. Et donc c'est la raison pour laquelle il faut en fin de compte prévenir, parce que vous savez que gérer une entreprise, c'est gérer des risques. Et donc se passer de risque, se passer de conseils, c'est prendre un risque complètement inutile. Donc il faut prévoir.
Et puis la périodicité, le temps, c'est important aussi. Est-ce qu'il faut comprendre que cette règle de non-concurrence, elle ne s'applique qu'au contrat postérieur à celui qui est signé avec le mandant? Est-ce que ça concerne les contrats antérieurs?
Bien sûr, pareil. Pareil. À partir du moment où vous voulez prendre un nouveau mandant, c'est des choses qui peuvent arriver, vous devez avertir votre mandant actuel que vous allez prendre un autre mandant, dans le même secteur d'activité. Hein. Si vous voulez vendre des piscines en dehors de l'agence, enfin de la transaction immobilière, là vous avez le droit, puisque vous ne faites pas concurrence à votre mandant. Hein. Il n'est pas dans cette activité-là.
Comment établir les frontières de la non-concurrence, Jean-Yves Frappin ?
Eh bien, c'est par l'écrit. C'est-à-dire que quand je vous disais que quelqu'un qui fait des biens immobiliers aux particuliers, immeubles, etc., et puis que d'autres qui peuvent faire du terrain agricole ou des biens commerciaux ou des fonds de commerce, après tout, il faut définir déjà les secteurs géographiques, bien les définir, et non pas dire la France entière, hein. Donc bien définir le secteur géographique, bien définir le type de client, hein, et bien définir le type de produit. Voilà. Et là, une fois que tout est mis dans le contrat, eh bien, c'est la libre négociation qu'il peut y avoir avec le mandant.
Alors, ça arrive souvent que les gens disent « Oh, vous n'avez pas respecté la clause de non-concurrence ». Alors, pour que ce soit qualifié de faute grave, privatrice de l'indemnité de cessation de contrat, hein, c'est un des conséquences, il faut quand même remplir quelques conditions. Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus, Jean-Yves Frappin ?
Eh bien, déjà, pour définir la faute grave, ce n'est pas un agent immobilier ou un agent commercial qui peut définir la faute grave. Automatiquement, ce sont les juges. Mais les juges prendront en compte, justement, cet article 134.3 du Code du commerce, et aussi qui est inclus aussi dans le mandat d'intérêt commun, hein, puisque hein, qui fait que on ne doit pas faire concurrence au mandant, sauf accord de celui-ci. Voilà.
Alors la clause de non-concurrence après la cessation du contrat, on parlait de pendant. Là aussi, il y a des choses à expliquer. C'est pas évident.
Alors là, c'est beaucoup plus compliqué, parce que quand je vois, en fin de compte, certains contrats où l'agent commercial n'a aucun secteur d'activité, il peut travailler dans toute la France et tout, etc. Bon, il n'a pas de clientèle définie, et puis il n'a pas de produit défini. Et puis que on voit après une des clauses de non-concurrence post-contractuelle dans les contrats qui disent l'agent commercial n'a pas le droit de travailler à 10 km autour de l'agence immobilière. Là, ce sont des clauses qui sont un petit peu abusives. Il faudrait peut-être que certains contrats soient revus. Bon, pour une raison très simple, si vous voulez, c'est que la Constitution française de 1946 dit qu'on ne doit pas empêcher une personne d'entreprendre. Et donc, les clauses de non-concurrence sont reconnues dans le droit du travail, mais elles sont indemnisables. Donc si vous avez un salarié qui quitte et que vous pensez qu'il va partir à la concurrence en apportant son savoir, automatiquement, donc, vous lui mettez une clause de non-concurrence post-contractuelle sur maximum 2 ans dans l'activité ou le secteur, en fin de compte, qu'il faisait. Et cette clause doit être rémunérée en fonction donc d'un jurisprudence qui est définie dans le domaine du contrat. Oui, ça, ouais. En général, c'est 50% des rémunérations. Mais par contre, l'agent commercial, lui, c'est vrai, on peut lui inclure, puisque c'est dans la loi aussi, on peut lui inclure une clause de non-concurrence, mais cette clause de non-concurrence doit être proportionnée. C'est-à-dire qu'il est tout à fait normal qu'un agent immobilier se protège de la concurrence de son agent commercial qui a eu connaissance des mandats qui ont été rentrés, des mandats de vente, etc., de clients. Là, l'agent commercial n'a pas le droit sur les clients, je dis bien, et les clients, ce sont les mandats qui sont inscrits sur le registre du mandat de l'agent commercial, donc les clients, même si c'est l'agent commercial qui a rentré le mandat, Une fois qu'il a donné le mandat à son, puisque c'est l'article 4 de la loi Hoguet, l'agent commercial travaille au nom et pour le compte d'une agence immobilière, et il peut signer les mandats. À partir du moment où il a remis le mandat qui a été accepté par le mandat, le client appartient à l'agent immobilier. Et donc l'agent commercial n'a pas le droit de faire concurrence au client de son ex-mandant. Pendant la durée du mandat aussi, bien sûr, parce que si le client arrête de travailler avec l'agence immobilière pour des raisons, etc., bon, bah là. Mais on ne peut pas empêcher, en fin de compte, un agent commercial d'effectuer son travail auprès de son domicile, 10 km, 20 km, etc., parce que ça, c'est une atteinte à la liberté de travailler qui est contraire à la Constitution française. Donc, on définit bien en cas de rupture de contrat, l'agent commercial n'a pas le droit de travailler sur une liste des clients. Et là, là-dessus, c'est très clair.
Et pour être valable, une clause de non-concurrence, après la rupture de contrat, doit être rémunérée.
Non.
De quoi ?
Alors,
elle est considérée comme nulle.
Non. Alors là, l'agent commercial, ce n'est pas prévu dans la loi. L'agent commercial ne peut pas jouer sur le code du travail. Donc, il ne peut pas réclamer une indemnisation. Par contre, l'agent commercial peut très bien mettre dans son contrat que cette clause s'appliquera à partir du moment où les indemnités de préavis et l'indemnité de cessation de contrat auront été payées. Et là, ça peut être mis aussi dans le contrat. Mais il y a suffisamment de jurisprudence là-dessus où je parle de la proportionnalité du bénéficiaire de la clause à conserver ses intérêts. Or, vous savez très bien comme moi qu'une transaction immobilière s'arrête le jour où c'est passé devant le notaire. Donc, à partir du moment où c'est passé sur le notaire, le client n'existe plus puisque il a signé l'acte de vente.
Si on n'a pas de clause d'exclusivité géographique, il faut signer ou faut pas signer la clause ?
Non, je déconseille complètement. Parce que si vous avez une clause géographique en exclusivité, chose que c'est rare que j'ai vu ce genre de clause. Parce qu'il faut aussi laisser l'agence immobilière d'avoir le maximum d'agents commerciaux pour pouvoir effectuer son métier. Mais donc c'est rare quand je le vois. Donc là, évidemment, si vous avez une clause d'exclusivité, là c'est l'intérêt aussi de préserver le secteur géographique qui a été confié en exclusivité, où là évidemment la cause de proportionnalité dont je parlais s'appliquera plus facilement devant les juges.
Merci Jean-Yves Frappin. Plus d'informations sur la CNASIM, la newsletter, la chaîne YouTube, ils savent tout. Ils sont là pour vous prémunir d'éventuels écueils. Merci Jean-Yves Frappin, vous êtes le secrétaire général de la CNASIM. Merci pour cette émission.
La CNASIM vous parle, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.